Bon réveil si vous nous rejoignez, voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Cameron face à ses pairs, le Premier ministre britannique affronte ses 27 homologues européens aujourd'hui en sommet à Bruxelles. Première rencontre depuis la victoire du Brexit au référendum.
Cameron qui refuse d'enclencher la procédure de séparation. Nous nous demanderons qui dans la classe politique britannique prendra le risque d'activer l'article 50 du traité de Lisbonne pour entamer le divorce.
Et nous verrons aussi comment le secteur de la recherche britannique s'inquiète de ne plus bénéficier des moyens européens.
L'actualité ce matin, c'est aussi la 11e journée de mobilisation contre la loi travail avec un vrai défilé et le vote en fin d'après-midi d'une version très libérale du texte au Sénat.
Et puis l'exécutif sous pression après la consultation départementale pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pro et anti, s'affrontent sur le calendrier de la reprise des travaux. L'équation a changé et les inconnus se sont multipliés. On va désormais parler des 27 plus 1 au sommet de l'Union européenne. Sommet réuni aujourd'hui à Bruxelles pour la première fois depuis la victoire du Brexit au Royaume-Uni. Le Premier ministre David Cameron va devoir affronter ses 27 partenaires. Lui veut prendre son temps. Il ne veut même pas être celui qui enclenche le processus de divorce qui active le désormais fameux article 50 du traité de Lisbonne. À Londres, Franck Madvon.
Si les dirigeants européens attendent de David Cameron des réponses sur la marche à suivre vers le Brexit, ils seront déçus. Le Premier ministre britannique l'a redit hier, il n'activera pas l'article 50, la décision revient à son successeur. Pour David Cameron, le Brexit n'est pas son affaire, il n'en a pas voulu. Les 27 pourraient ne pas apprécier, le Britannique leur avait dit qu'il gagnerait ce référendum, il ne sera pas accueilli les bras ouverts à Bruxelles. Cela dit, tant que l'article 50 n'est pas invoqué, le Royaume-Uni fait toujours partie de l'UE et les anti-Brexit peuvent encore espérer que la sortie n'aura jamais lieu. Les appels à un second référendum se multiplient à Londres et de toute façon des élections générales anticipées semblent probables, ce qui retarderait encore le début des négociations sur le Brexit. David Cameron a bien précisé hier qu'il fallait respecter la volonté du peuple, mais en refusant d'activer l'article 50, il laisse un mince espoir aux pro-UE et piège d'une certaine manière son successeur, peut-être Boris Johnson.
Franck Madvon à Londres. Alors justement, qui pour succéder à David Cameron? Il a annoncé son départ à l'automne. Et qui pour déclencher l'article 50? Le Parti conservateur promet de désigner un nouveau Premier ministre d'ici le 2 septembre. Ce ne sera pas George Osborne, l'actuel ministre des Finances. Dans une tribune publiée dans The Times, il annonce qu'il n'est pas candidat au poste. Il avait fait campagne pour le maintien du Royaume dans l'Union. On ne voit donc pas bien qui, au sein de la classe politique britannique, prendra la responsabilité de signer le divorce. Écoutez l'éclairage de Charles de Marcilly, le responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman.
C'est aujourd'hui une des questions à laquelle pas grand monde a de réponse. Pour une raison qui est très simple, c'est que c'était assez flou pour savoir finalement quel parlement pourrait voter. Les Écossais ont déjà dit qu'ils souhaiteraient le faire passer aussi face à leur parlement. Les députés aujourd'hui sont plutôt en majorité pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. On pourrait avoir des nouvelles élections en octobre si vous avez un nouveau dirigeant qui devient Premier ministre. Donc aujourd'hui, c'est qui aura la légitimité de pouvoir appuyer sur ce fameux article 50, qui est la notification qui doit être envoyée au chef d'État et de gouvernement, au Conseil européen, pour pouvoir commencer à négocier, seulement à négocier, un départ éventuel. Donc aujourd'hui, c'est une vraie question. Ce qui sera, quand est-ce que ça pourrait être fait et surtout, qui actionnera ce bouton?
S'il y a de nouvelles élections, si cela débouche sur une nouvelle majorité à Londres, est-ce qu'il peut y avoir un nouveau référendum pour ou contre le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne?
David Cameron a rappelé que toute la responsabilité serait au prochain gouvernement. Donc tout aujourd'hui est ouvert, même si on voit que Bruxelles, et cette fois-ci je fais référence aux institutions européennes, espère que ça aille assez vite, parce que justement on ne souhaite pas rentrer dans une période d'incertitude prolongée, qui crée évidemment des malaises, qui empêche les autres d'avancer, qui empêche de redéfinir une nouvelle configuration à l'Union européenne à 27, et qui en pousse pour que l'article 50 soit activé le plus rapidement possible. En revanche, au sein des États membres, on voit que cette rapidité est plus partagée.
Charles de Marcilly de la Fondation Robert Schuman, il répondait à Stanislas Vazak. Et en amont du sommet européen du jour à Bruxelles, hier un nouvel axe s'est dessiné, Paris-Berlin-Rome. François Hollande a rejoint dans la capitale allemande la chancelière Angela Merkel et l'italien Matteo Renzi. Tentative de rassurer, ils ont promis de donner une nouvelle impulsion au projet européen au cours des prochains mois, avec des avancées, a promis la dirigeante allemande, dans les domaines de la défense, de la croissance, de l'emploi et de la compétitivité. Le Brexit inquiète les politiques, les milieux économiques également, hier, deux agences de notation, Standard & Poor's et Fitch, ont abaissé la note du Royaume-Uni avec une perspective négative, c'est-à-dire la possibilité d'une autre sanction dans les mois à venir. La livre sterling a également connu un plus bas hier depuis plus de 30 ans. Autre secteur fébrile aujourd'hui, celui de la science et de la recherche. Les Britanniques bénéficient de nombreux moyens européens. Une sortie de l'Union ne sera pas sans conséquences, Sophie Bécherel.
C'est un jour très noir, un arrêt de mort, un désastre à long terme. Après la décision historique des Britanniques, les commentaires de grands scientifiques européens témoignent du traumatisme. Le sujet pour la recherche outre-Manche est si brûlant que la revue Nature a lancé sur Twitter le recueil de témoignages. Il faut dire que le Royaume-Uni est le plus gros bénéficiaire des fonds européens attribués aux projets de recherche. 20% des financements de la Commission sont trustés par les équipes britanniques. Aucune triche là-dedans, juste l'excellence et l'habitude des universités d'aller chercher auprès de l'Europe l'argent que le gouvernement et les industriels nationaux ne leur donnent plus. La fin de ces crédits, ce serait 1,4 milliard d'euros chaque année en moins, a calculé Digital Science, une structure qui aide les équipes à monter leurs dossiers. Autre conséquence prévisible, la possibilité d'accéder aux grands équipements comme l'accélérateur de particules du CERN ou les télescopes européens du Chili. Il faudra revoir les accords. Pour balayer toutes ces inquiétudes et incertitudes, les pro-Brexit brandissent la qualité de la science britannique. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas récupérer l'argent d'une façon ou d'une autre, affirme-t-il.
Le choc du Brexit a certainement aussi touché l'électorat en Espagne, où le PP a profité ce week-end d'un réflexe conservateur. Le parti du chef du gouvernement sortant, Mariano Rajoy, est le seul à avoir bien résisté. Il ne pourra toutefois pas se passer d'autres forces pour former une coalition. Rajoy espère éviter 6 nouveaux mois de blocage en cas d'absence d'accord politique. Les socialistes du PSOE souhaitaient encore hier évincer le Premier ministre. En revanche, les centristes de Ciudadanos ont ouvert la porte à la négociation. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette décision cruciale de la Cour suprême des États-Unis hier. Elle a réaffirmé sans ambiguïté le droit des femmes à se faire avorter, question qui déchire encore le pays aujourd'hui. Les anti-IVG avaient imposé ces dernières années des restrictions dans de nombreux États conservateurs. La Cour suprême a ainsi jugé illégale une loi de 2013 au Texas qui imposait aux cliniques pratiquant l'avortement de posséder un plateau chirurgical digne d'un milieu hospitalier. La loi avait provoqué la fermeture de beaucoup de cliniques. Les États-Unis décidément très sévère contre Volkswagen. L'amende contre le constructeur allemand pour avoir truqué ses moteurs diesel a été revue à la hausse. 15 milliards de dollars pour échapper à un procès, croit savoir l'agence Bloomberg. Précision à Washington avec Pierre-Yves Dugas.
Il faudra compter non plus 10 milliards de dollars, comme on l'avait cru la semaine dernière, mais au moins 15 milliards pour régler le scandale du Dieselgate. Les autorités américaines ont choisi comme hypothèse de base que Volkswagen devra racheter 85% des 500 000 véhicules polluants concernés, et ce à un prix délibérément réévalué. Rien que cet aspect du compromis va coûter 10 milliards de dollars. 2,7 milliards de dollars de plus en amende seront exigés pour dommages de pollution. 2 milliards de plus devront être investis dans des technologies anti-pollution, sans compter des chèques de 400 millions à plusieurs États américains. On s'approche donc des 18 milliards de dollars qui avaient été mis de côté dans cette affaire en avril dernier par le constructeur allemand. Car par ailleurs, le département de la justice menace toujours d'imposer en plus des amendes pénales à Volkswagen.
Les femmes victimes collatérales des cartels de la drogue au Mexique. Au nom de la lutte contre le crime organisé et pour leur extorquer des aveux, elles subissent des agressions sexuelles, des actes de torture. Autant d'atrocités dénoncées aujourd'hui par une enquête d'Amnesty International. Nadine Epstein.
Monica, 26 ans, raconte son cauchemar. 6 policiers l'ont violée. Durant son interrogatoire, elle a reçu des décharges électriques sur les parties génitales. Elle a eu la tête plongée dans un seau d'eau. Actes de torture et autres mauvais traitements, harcèlement sexuel, abus en tout genre, violence, c'est ce que dénonce Amnesty International qui a rencontré 100 femmes incarcérées au Mexique. 97 d'entre elles ont été agressées par des représentants de l'État, forces de l'ordre, de la sécurité, militaires, pendant ou après leur arrestation. Ces femmes, issues généralement de milieux défavorisés, appréhendées dans la guerre contre la drogue, subissent les pires horreurs pour ensuite les obliger à avouer qu'elles font bien partie d'une bande criminelle, d'un cartel de la drogue. Et ainsi, les autorités mexicaines peuvent se vanter d'obtenir des résultats concrets dans leur lutte contre les narcotrafiquants, d'avancer des chiffres, d'arrestations, d'incarcérations, même si les soi-disant criminels ne sont pas les vrais coupables, peu importe. Pour la seule année 2013, plus de 12 000 cas de torture et autres formes de violence ont été signalés. Entre 2013 et 2014, les plaintes pour torture déposées auprès du parquet général du Mexique ont doublé, mais aucune enquête n'a été ouverte et l'armée n'a suspendu ni sanctionné aucun soldat. Pour Amnesty International, la détermination du Mexique à étouffer cette crise nationale défie l'entendement. Il faut que la torture cesse, que les responsables soient traduits en justice et les victimes obtiennent réparation, estime l'ONG des défenses des droits de l'homme.
8h10 sur France Culture, la suite du journal à Amélie Perrier avec une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail, avec cette fois un vrai défilé.
Oui, les organisations syndicales ont obtenu de pouvoir manifester de la Bastille à la place d'Italie, départ à 14h. Un vrai parcours et pas une boucle ultra courte autour du bassin de l'Arsenal comme la semaine dernière. Autre moment fort du jour, l'annonce des résultats de la votation citoyenne contre la loi El Khomri. Les syndicats espèrent infléchir la position du gouvernement grâce à cette consultation dans les entreprises. Manuel Valls et sa ministre Myriam El Khomri recevront demain la CGT, la CFDT, FO et la CFTC et jeudi l'UPA et la CFE-CGC. En attendant, le texte doit être voté aujourd'hui en fin d'après-midi au Sénat, majoritairement à droite. Texte largement remanié dans sa version la plus libérale. Le point avec Maxime Debs.
On n'a pas durci le texte, on lui a plutôt redonné du souffle. Jean-Baptiste Lemoyne, l'un des rapporteurs, les Républicains, du texte au Sénat, s'estime très confort lorsqu'il évoque point par point les articles modifiés. Le numéro 2 d'abord, celui qui divise, relatif aux accords d'entreprise. Les sénateurs veulent aller plus loin encore et laisser chaque société décider de son propre temps de travail. Dans le cas où aucun accord ne serait trouvé, cette durée serait fixée à 39 heures par semaine. Autre point, le plafonnement des indemnités aux prud'hommes. Sous la pression de la rue, le gouvernement y avait renoncé, les sénateurs l'ont réintroduit. Exit aussi la généralisation de la garantie jeune laissée en gage aux étudiants et lycéens pour dénouer le conflit au printemps. Si l'idée est bonne sur le papier, ce serait habituer les jeunes à gagner de l'argent sans rien faire. Mais n'en déplaise aux sénateurs, ils n'auront pas le dernier mot. Celui-ci reviendra au gouvernement qui aura tout loisir d'imposer sa version au moment du retour la semaine prochaine du texte à l'Assemblée avec un recours au 49-3 d'ores et déjà envisagé.
Le calendrier au cœur des préoccupations aussi dans le dossier Notre-Dame-des-Landes depuis la victoire des partisans du nouvel aéroport breton lors du référendum départemental ce week-end. Pro et anti mettent la pression sur l'exécutif pour connaître ses intentions et surtout pour savoir quand les travaux vont reprendre. Violette Voldoir.
Pour les pro-aéroports, le mieux, ce serait tout de suite. Et le gouvernement le peut, dès que les détails juridiques autour de l'avenant au contrat de concession avec Vinci seront réglés d'ici quelques mois. Sauf que les élus écologistes l'ont rappelé dès hier soir. Le candidat Hollande s'était engagé, en 2012, à ne pas faire entrer les bulldozers à Notre-Dame-des-Landes tant que les recours juridiques ne seraient pas tranchés. Or aujourd'hui, il reste tout de même plus d'une dizaine de procédures en cours. Les écologistes comptent donc sur la parole donnée, mais aucun de ces recours n'est suspendu. Et le gouvernement peut donc tout à fait passer outre et décider de lancer les travaux dès l'automne. Les opposants sont donc déjà prêts à lancer des contre-attaques juridiques systématiques sur chacune des espèces protégées qui vit sur les terrains concernés par la construction de l'aéroport. À cela s'ajoute une résistance sur le terrain, puisque les occupants de la ZAD ne comptent pas vider les lieux. Cela veut donc dire des opérations de maintien de l'ordre importantes avant de pouvoir commencer tous travaux. Or aujourd'hui, les forces de l'ordre sont épuisées. Alors différer les travaux à la rentrée ou au début de l'année prochaine, c'est prendre le risque de se retrouver dans un conflit qui s'annonce dur avec les opposants et ce, à quelques mois de l'échéance présidentielle. Et cela, les pro-aéroports ne veulent même pas l'imaginer, car ils craignent de voir le projet repoussé après les élections, voire renvoyé au calendrier grec.
Les grandes régions françaises ont toutes un nouveau nom désormais. Dernière à s'être prononcée hier, la Nouvelle-Aquitaine, née de la fusion de l'Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes. Les autres nouvelles appellations, ce sont Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Occitanie et Normandie. Ces nouveaux noms doivent encore être validés en Conseil des ministres, puis faire l'objet avant le 1er octobre d'un décret du Conseil d'État. Les 6 régions dont le périmètre n'a pas changé conservent leurs anciennes appellations. Une disparition pour terminer. Hier à Rome, Bud Spencer s'est éteint à 86 ans, acteur italien, star de ce qu'on appelle les Western Spaghetti. De son vrai nom, Carlo Pedersoli était entré dans la légende du cinéma avec ses duos comiques avec Terence Hill. Hommage unanime même en Italie, le Premier ministre Matteo Renzi, sur Twitter, lui écrit « Ciao Bud Spencer, nous t'avons tous tellement aimé ». Et le temps de ce mardi, toujours une France coupée en deux, avec un nord en automne, pluie grisaille et température fraîche, et puis un sud en été au soleil. Les températures, les minimales vont ce matin de 11 à 15 degrés, jusqu'à 20 près de la Méditerranée. Cet après-midi, on attend 20 degrés à Lorient, 21 à Lille, 22 à Paris, 24 degrés à Strasbourg, 25 à Arcachon, 31 degrés dans l'arrière-pays de l'Hérault et 33 pour Uzès dans le Gard.